Oui, bonjour Serge Regour, merci d'être au rendez-vous de la matinale de Radio Présence. Je rappelle que vous êtes élu régional, président de la commission culture et audiovisuelle du conseil régional d'Occitanie. Vous êtes également professeur émérite de la faculté de droit de Toulouse et impliqué de longue date dans le milieu culturel. Vous avez déjà publié plusieurs livres sur la question culturelle en France et vous venez de faire paraître un petit ouvrage aux éditions Indigènes. Quand je dis petit ouvrage, c'est parce qu'il ne compte qu'une quarantaine de pages, mais je peux dire à nos auditeurs qu'elles sont denses et percutantes. C'est aussi un peu une manière de pamphlet. SOS Culture, c'est le titre de votre livre, très critique pour les politiques culturelles menées en France depuis les années 80. Alors, Serge Regour, le naufrage serait donc quasi complet puisque de politique culturelle, d'ambition culturelle, il n'y a même plus selon vous. Pourquoi faites-vous ce constat? Qui sont les responsables de cette situation?
Eh bien, écoutez, la pandémie a révélé la manière dont les artistes et la culture étaient traités, considérés comme implicitement des activités non essentielles. Et en réalité, le projet de ce petit ouvrage, dont le projet d'ailleurs ne m'appartient pas, il m'a été proposé par les éditeurs d'Indigène Éditions, qui étaient les éditeurs du fameux Indignez-vous de Stéphane Hessel, et qui m'ayant entendu dans telle ou telle conférence, avait proposé, bien avant la pandémie, le projet de cet ouvrage. Et j'avais choisi le titre SOS Culture avant même les effets de la pandémie, qui en réalité était de mon point de vue prévisible, dès lors que depuis déjà plusieurs décennies, me semble-t-il, on gère le quotidien, on gère les acquis formidables de politiques culturelles antécédentes, mais il n'y a plus à proprement parler de politique culturelle. Il y a la reconduction de politiques antécédentes, de politiques de guichet, de perpétuation des crédits antérieurement votés. Mais de vraie culture politique, c'est-à-dire de définition d'un référentiel, d'un concept sur la base duquel sont bâties les décisions particulières et ultérieures, ça a disparu depuis déjà plusieurs décennies. Et si je devenais moi-même journaliste et que je vous demande quel est l'apport des différents ministres de la culture au cours des dernières décennies, je pense que, alors que vous êtes bien informé, vous seriez bien en peine de me répondre.
Je le serais d'autant plus qu'il y a même des ministres de la culture dont j'ai oublié le nom et la période pendant laquelle ils ont été aux affaires. Donc oui,
Exactement.
effectivement. Mais donc les responsables de cette situation, bon, on parle des élus, des politiques, est-ce que ce sont les seuls responsables? Il y a aussi les médias. Est-ce que le monde culturel lui-même, les acteurs culturels, ne sont pas un peu coupables?
Ma réponse est positive. D'ailleurs, si j'avais voulu faire un livre consensuel et caresser en quelque sorte les artistes et les gens de culture dans le sens du poil, comme dit l'aphorisme un peu vulgaire, c'eût été évidemment plus confortable. Mais je crois que, comme vous venez de le dire, les responsabilités sont partagées. Et, première catégorie de responsables, en effet, c'est une forme de désintérêt, d'absence de curiosité de la plupart des politiques. Et il suffit de renvoyer aux campagnes électorales récentes, qu'il s'agisse des présidentielles, des législatives, pour voir que la culture n'a malheureusement pas été parmi les questions donnant lieu à débats, à oppositions, à controverses. Les médias de masse, on le sait depuis beaucoup d'auteurs que je me contente de citer de manière très allusive, les médias de masse, les mass médias, comme on disait à l'époque, ont de leur côté totalement transformé des enjeux culturels en pur divertissement et ont renoncé en quelque sorte à ce qui était la fonction et la mission pédagogique, culturelle de la télévision, qui expliquait d'ailleurs pendant très longtemps le statut de monopole public dans tous les pays européens. Et puis enfin, comme vous venez de le dire, eh bien oui, un certain nombre de responsables culturels, des professionnels de la culture, d'artistes, en quelque sorte, depuis longtemps, ont baissé la garde, ont considéré que toutes les aides à la culture étaient en quelque sorte des acquis, mais n'ont plus de lecture et de compréhension politique de la chose culturelle. Or, comme le soulignait formidablement Hannah Arendt dans son bouquin « La crise de la culture », être cultivé, c'est avoir une lecture, c'est-à-dire une compréhension politique de la culture. C'est pas simplement aimer l'opéra ou aimer le théâtre, etc. Et ce que je dis là, en reprenant Hannah Arendt, c'est le contraire d'une lecture politique des œuvres. C'est-à-dire que ça aboutirait à l'inverse à une forme de limitation, de censure, et c'est ce qu'il y a évidemment de plus détestable. Or, le comble, et la confusion est totale, c'est qu'un certain nombre d'artistes dans telle ou telle situation, j'évoque en particulier, parce que c'est un petit format, on ne peut pas tout traiter, le contexte des conflits d'ex-Yougoslavie, de Bosnie, on a vu des artistes, et non des moindres en France, se comporter comme des censeurs à l'égard de celui qui allait devenir un prix Nobel de littérature, Petr Handke, en demandant la censure de ses œuvres, en soutenant la déprogrammation d'une de ses pièces à la Comédie Française, pièce écrite en 1989 et déprogrammée en 2026, donc qui n'avait rien à voir avec les Balkans. Donc, je cite cet exemple parmi d'autres, qui confine ou qui exprime une perte de lucidité politique et qui aujourd'hui conduit beaucoup de gens de culture à l'incompréhension, c'est-à-dire à nous dire mais on comprend pas pourquoi est-ce que les gens peuvent aller dans les grandes surfaces, pourquoi est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le métro et pourquoi est-ce que les théâtres et les musées ne sont-ils pas ouverts, c'est-à-dire une vraie incompréhension de leur situation qui est une déploration légitime. Mais l'état d'incompréhension montre à quel point la lucidité politique a été perdue depuis longtemps.
Oui, puis ils sont sans doute un petit peu déconnectés quand même de certaines réalités. Il y a un moment, il me semble aussi, qui est important, c'est que moi j'ai l'impression que ce mot culture est devenu un vrai mot valise dans tous les sens du terme, qu'on y a mis un peu tout et n'importe quoi. Toutes les formes de divertissement, toutes les formes de culture populaire, si on peut dire le mot, et encore, j'en suis même pas sûr. Et puis on a parlé aussi d'industrie et d'économie culturelle. Et vous en parlez dans votre livre, ce moment où on relie la culture au marché, aux règles du marché. Ça n'a pas été aussi ça, un peu un moment de rupture?
Oui, alors vous mettez le doigt sur deux des contradictions dont je pense qu'elles sont importantes. C'est d'une part que, n'arrivant pas, en quelque sorte, ce qui était l'enjeu du projet de démocratisation culturelle, n'arrivant pas à faire que la culture, au sens où l'avait défini Malraux, notamment de l'accès aux grandes œuvres de l'esprit dans tous les domaines culturels, que la culture puisse devenir populaire, à un certain moment, on a fait en sorte que finalement le populaire puisse devenir culturel. Et c'est effectivement la critique que j'évoque de ce qu'on appelait le tout culturel, qui aboutit à une forme de confusion entre la culture au sens artistique, esthétique, de la création, et d'autre part la culture anthropologique, qui correspond simplement à des modes de comportement, à des coutumes, à des pratiques sociales, et évidemment à décerner un label à quelque sorte à des pratiques spontanées dont on peut évidemment s'interroger sur le point de savoir si elles méritent le même traitement que les œuvres littéraires, picturales, etc., qui ont en quelque sorte constitué toute l'histoire de l'art. Et par ailleurs, en effet, deuxième volet, c'est une espèce de dérive économique. Alors, je pense qu'il faut effectivement considérer que ce qu'on appelle traditionnellement les retombées économiques de la culture ne sont pas négligeables, que la culture, ce sont des dizaines de milliers d'emplois, que c'est une part non négligeable du PIB. Tout cela est vrai, mais il faut évidemment ne jamais perdre de vue que ces éléments ne sont en quelque sorte complémentaire ou surlégitimant de ce qui est essentiel, alors au plan étymologique, puisqu'on a considéré qu'il y a une activité essentielle et non essentielle. Or, la culture, et on le sait au moins depuis les Lumières, c'est la civilisation. L'accès au savoir se fait notamment de manière ludique par l'art, par ce qu'on appelait les beaux-arts, et c'est cet accès au savoir qui permet aux citoyens d'être citoyens, d'avoir des responsabilités et de ne pas être réduit simplement à un consommateur dans une logique de marché, car non, la culture ne peut pas relever du seul marché. Le poète Octavio Paz disait que le marché n'a ni conscience ni miséricorde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser une société sur la base du seul rapport marchand. Et la capitulation des politiques dont nous parlions tout à l'heure, l'absence de curiosité, recoupe évidemment cette question dès lors qu'on a donné au marché beaucoup trop de place, et j'évoque de manière très furtive évidemment, mais ce qu'on croit être des éléments favorables à la culture, je pense au pass culture en particulier, ce sont de fausses bonnes solutions, ce sont des solutions paresseuses, puisqu'en réalité on donne un droit de tirage à des individus, à des citoyens, parfois le plus souvent à des jeunes gens, mais qui du coup vont en faire usage dans une logique qui est pour l'essentiel une logique de marché, alors que évidemment les enjeux de la culture sont ailleurs, ils sont notamment dans ce que j'emprunte à Bertolt Brecht, célèbre dramaturge, c'est-à-dire la nécessité de l'apprentissage. Oui. C'est-à-dire qu'on ne devient pas spontanément à la culture et que la culture et la création artistique doivent être apprivoisées dès l'école, dès le plus jeune âge.
Oui, alors là, vous pointez deux choses qui me semblent importantes et vous en parlez dans votre livre. Je reviens à Malraux, là, hein, et je vais dire ça avec tout le respect que j'ai et pour l'écrivain et pour le ministre de la Culture qu'il a été. Lui, il parlait de choc esthétique, c'est-à-dire que tout un chacun pourrait ressentir devant une œuvre, sans initiation préalable, sans avoir reçu quelques clés de compréhension, eh bien voilà, un choc esthétique qui allait lui ouvrir les portes de la culture. Est-ce qu'il n'y a pas là, si ce n'est une faute, en tout cas une erreur originelle ?
Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est une question que je ne pouvais pas, eu égard, encore une fois, au petit format qui est celui de la collection des éditions indigènes. Sinon, le propos aurait pu paraître un petit peu confus. Mais en effet, la question de Malraux, de démocratisation culturelle, qui, de mon point de vue, est le bon et le vrai référentiel, intégrer... De mon point de vue, aujourd'hui, on le sait, cette contradiction qu'on n'a pas perçue Malraux à l'époque, parce que le contexte était très différent, c'est-à-dire qu'il était convaincu, en effet, que, en quelque sorte, le goût artistique ne s'apprenait pas.
Il s'imposait lui-même, oui, il s'imposait
exactement,
lui-même.
Exactement, ne relevait pas d'une démarche didactique, ne relevait pas d'une démarche pédagogique, c'est ce que vous venez de rappeler, le choc esthétique. Mais je pense que, précisément... à l'époque, la prégnance du divertissement dans les masses médias dont nous parlions tout à l'heure,
c'était pas celle d'aujourd'hui, évidemment.
Ouais. Exactement, ne pouvait pas être prise en compte parce que nous étions dans une logique de monopole de service public, parce que notamment ce qu'on appelait l'école des Butchaumont avait une programmation à la télé, une chaîne ou deux chaînes, qui était bâti déjà sur cette logique pédagogique, et que du coup, ce que récusait Malraux, c'était effectivement une inféodation de la culture dans le cadre de l'éducation nationale, puisqu'il ne faut pas perdre de vue qu'en réalité, le ministère des Affaires culturelles avait précisément été extrait de la matrice de l'éducation nationale, ce qu'on appelait auparavant
l'instruction publique,
oui. Dans laquelle il y avait simplement une direction des beaux-arts. Donc vous avez tout à fait raison, on peut pointer une espèce de contradiction dans la théorie, la thèse, le concept de Malraux de démocratisation culturelle, dès lors qu'il pensait que le goût artistique était spontané, qu'il n'y a pas besoin de pédagogie, et donc je suis évidemment en désaccord, mais c'est évident aujourd'hui que ça ne fonctionne pas en ces termes, mais encore une fois, le contexte de l'époque était très très différent.
Ouais. Alors, on se rend compte aussi que la notion de culture générale aussi est disparue aujourd'hui, y compris des grandes écoles, qui forment nos gouvernants, qui forment nos élites, comme on dit, donc il ne faut pas s'étonner après que la culture soit pour eux une espèce de variable d'ajustement, qu'elle ne soit plus essentielle. Alors pour terminer, là, il nous reste deux minutes et demie, après le constat, après la déploration, je reprends votre mot, il faut aussi proposer des solutions, et c'est ce que vous faites à la fin de votre livre. Un des derniers chapitres a pour titre « Que faire ?» Alors que faire ? Quelles sont les solutions, les pistes de réflexion que vous proposez ?
Ah ben, si vous voulez, pour aller vite, dans les deux minutes, ce que je propose, c'est un réattelage du politique et de l'artiste. J'évoque le fait qu'aujourd'hui, il se trouve que je connais un tout petit peu modestement les deux univers, il me semble que les deux vivent dans des univers séparés. Je parle ici pas du tout des collectivités territoriales, je ne m'exprime pas en termes d'élus régionales, parce que les politiques dont nous parlons là depuis le début, avec la figure de Malraux notamment, c'est évidemment des politiques de l'État. Je veux rappeler que l'État s'est construit en France avec la culture, que la culture a été un élément de construction de l'État, et que si nous sommes aujourd'hui dans la crise dans laquelle nous sommes, c'est qu'un délitement s'est produit, un divorce, une séparation s'est organisée entre, d'une part, la figure de l'artiste et celle du politique. Et donc, ce réattelage, du regard du politique sur la culture passe par toute une série de pistes, et notamment la question évidemment de l'école, de l'éducation, des enseignements artistiques dès le plus jeune âge me paraît être la première pièce de l'édifice.
Oui, alors vous rappelez aussi une formule d'Antonio Gramsci, entre autres parmi les nombreuses références que vous citez dans votre livre, opposer le pessimisme de l'intelligence, au pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté. Et vous terminez en rappelant ce qu'étaient les grandes orientations du programme du Conseil national de la résistance, à qui, selon vous, il faudrait peut-être de nouveau se référer aujourd'hui parce qu'elle reste très actuelle, conforme à ce que le général de Gaulle nommait une certaine idée de la France. Une certaine idée de la France, Serge Regourd, c'est d'abord un référentiel culturel commun.
Ben, c'est tout à fait ça, c'est ce que je viens de rappeler, que c'est pour ça que j'ai choisi de terminer par cette citation de Gaulle, une certaine idée de la France, parce que la France a été construite comme État-nation à partir notamment d'une référence et d'un matériau permanent à la culture. Et je crois que c'est parce que précisément un délitement s'est produit aujourd'hui et que je remets évidemment, sinon en cause, en tout cas je m'inquiète de toutes les logiques que l'on pourrait appeler aujourd'hui de multiculturalisme, qui renvoie nombre d'esprits perdus de la République vers des logiques communautaires où effectivement le « en commun » du culturel n'est plus à l'ordre du jour.
Merci beaucoup Serge Regourd.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre excellent petit livre SOS Culture paru aux éditions Indigènes. Je recommande chaudement la lecture.